Chapitre 2. Le jardin des Cybèles. C'est un joli nom pour une structure qui accueille des gens au bout du rouleau, que la vie a abîmés et qui ne parviennent pas à remonter la pente. Je n'ai pas vu les choses venir. Ou peut-être que j'ai détourné les yeux, je ne sais pas trop. Il y a 12 ans, j'ai été promu chef de rayon. Puis 7 ans plus tard, l'enseigne m'a proposé la direction du supermarché. Cette promotion pour moi, la petite caissière sans diplôme, était tellement inattendue que j'ai d'abord cru à une mauvaise blague. Mais ça n'en était pas une. Mes responsables étaient très satisfaits du travail que je fournissais. Ils souhaitaient me permettre d'évoluer. C'était une belle revanche sur la vie. Bien sûr, j'ai accepté sur le champ. Carla avait 10 ans et Zoé 7. Arnaud m'a soutenu. Il avait la possibilité de moduler ses horaires et de travailler une partie de la semaine en télétravail. L'idéal pour aller chercher les filles à l'école, gérer les devoirs. Je me suis investi comme jamais dans ma vie professionnelle, n'épargnant ni mon temps ni mon énergie. Au début, j'étais dopé à l'adrénaline. J'apprenais tant de choses, c'était grisant. Peut-être pour la première fois de ma vie, je me sentais importante. Je manageais une équipe de plusieurs dizaines de personnes qui respectaient mes décisions. Je pouvais dire à voix haute ce que j'avais pensé à voix basse durant des années. Je lançais des chantiers, montais des projets. Ça me nourrissait, tant et si bien que je ne ressentais pas la moindre fatigue. Le soir, quand Arnaud me rejoignait dans notre lit, je peinais à trouver le sommeil, mon cerveau refusant de se mettre sur pause, ne serait-ce que pour quelques heures. Je ne saurais pas vraiment dire à quel moment les choses ont commencé à changer. Certains aspects du travail avaient entamé ma motivation. La découverte des objectifs à atteindre, toujours plus hauts que les précédents, les conflits avec le personnel, les déconvenues avec les fournisseurs. Mon enthousiasme s'est effrité petit à petit. L'adrénaline a disparu, laissant le champ libre au stress, à l'inquiétude, à la crainte de ne pas être à la hauteur. Sans vraiment m'en rendre compte, j'ai puisé dans mes réserves, tiré sur la corde. Certaines nuits, je ne parvenais même pas à dormir 2 heures d'affilée. J'étais irritable, à fleur de peau. Je ne supportais rien, ou presque. Lorsque je rentrais à la maison, je n'avais plus d'énergie pour quoi que ce soit. J'ai relégué ma vie de famille au second plan. D'une certaine façon, ça m'arrangeait, car je n'étais pas doué pour cette partie-là, contrairement à Arnaud, qui avait l'air d'être né pour ça. Je n'aimais pas les jeux de société, j'avais du mal à rester assise pendant 1 heure et demie à regarder un dessin animé, je ne savais pas faire de vélo. Et même si j'avais su, je redoutais tellement que les filles chutent ou se blessent qu'il m'était impossible de les accompagner en balade. En revanche, je suivais leur scolarité de près. Sur ce point, je n'ai jamais failli. Je leur répétais qu'elles devaient beaucoup travailler si elles voulaient se donner toutes les chances d'exercer le métier de leurs rêves plus tard. Je les poussais à se dépasser. Elles étaient toutes les deux d'excellentes élèves. J'étais très fière d'elles. Mais j'étais incapable de le leur dire. Je me sentais gauche et dépassée par toutes ces émotions pour lesquelles on ne m'avait pas fourni de mode d'emploi. J'avais surtout peur de ne pas trouver les mots justes et de finir par leur faire du mal, comme Sabine m'en avait fait. Alors je gardais le silence. Ça me paraissait préférable. Ça ne l'était pas, évidemment. Carla est entrée dans l'adolescence à la vitesse d'un boulet de canon, sans jamais m'avoir entendu dire que je l'aimais. Alors que je l'aimais plus que tout. À en avoir mal, parfois. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu penser que cela suffirait. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie des petites cuillères? La théorie des petites cuillères? Non, je ne crois pas. C'est l'une de vos inventions? J'aimerais bien, mais non. C'est Christine Miserandino, une femme atteinte d'un lupus, qui a développé cette allégorie. Alors qu'elle dînait avec une amie, celle-ci lui a demandé ce que ça faisait de vivre avec cette maladie. Christine a commencé par lui parler des douleurs, des médicaments, de la fatigue, Mais ce n'était pas assez concret. C'est alors qu'une idée lui est venue. Elle a ramassé leurs petites cuillères, ainsi que celles des tables voisines, puis les a tendues à son amie. « Tu as 12 cuillères, » a-t-elle commencé. « Chaque tâche que tu dois effectuer dans la journée va t'en coûter au minimum une. Liste tout ce que tu as à faire, et pour chaque activité, ôte une cuillère de ton stock. Tu comprendras alors ce que c'est de vivre avec un nombre limité de cuillères. » Je dois la regarder avec un tel degré d'incompréhension qu'elle rit. Les personnes qui sont en bonne santé démarrent leur journée avec un stock quasi illimité de cuillères. Elles peuvent enchaîner les tâches sans se poser de questions. Bien sûr, la fatigue se fera ressentir si elles dépensent trop d'énergie. Mais une bonne nuit de sommeil suffira à recharger leur batterie. Et le lendemain matin, leurs réserves de cuillères seront de nouveau pleines. Les Vénardes, je commente, faisant mine d'avoir saisi là où Catherine veut en venir. Les personnes malades, ça vaut pour les affections chroniques, mais également pour les troubles psychiques comme la dépression, se réveillent quant à elles avec un nombre limité de cuillères. C'est l'une des conséquences de la maladie. Un peu comme une double peine, hélas. Chacune de leurs tâches quotidiennes, se lever, se doucher, choisir ses vêtements, s'habiller, leur coûte une cuillère. La matinée est à peine entamée qu'elles en ont déjà consommé 4. Comme elles n'ont pas la chance d'avoir un stock illimité, elles devront probablement renoncer à certaines activités, si elles veulent tenir jusqu'au soir sans être en déficit. En déficit. En théorie, rien n'empêche de consommer plus de cuillères que le stock initial. Une grosse journée, des imprévus, c'est comme tout, on peut tirer sur la corde, puiser dans ses réserves. Mais à la différence des individus en bonne santé, le stock d'une personne malade ne se recharge pas durant la nuit. Le lendemain, elle se réveille donc avec un nombre de cuillères encore plus réduit que la veille. Et un matin, elle n'en aura même plus assez pour réussir à sortir de son lit. Elle n'ajoute rien d'autre. Je la connais suffisamment à présent pour savoir qu'elle laisse ses paroles cheminer en moi. C'est la partie la plus douloureuse de la séance. Celle où plus personne ne dit rien. Et comment fait-on pour avoir de nouveau un stock illimité? Je lui demande après un silence bien trop long à mon goût. C'est justement pour découvrir ça que vous êtes ici, Valérie, n'est-ce pas?